C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui décortique les mots, le langage, les discours et leur impact sur notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible lié à notre histoire. Nous allons parler du poids des mots dans notre héritage colonial, Babel.
Bonjour Pauli, bonjour à tous. Aujourd'hui, il est largement admis que la colonisation fut une entreprise dégradante et humiliante. Depuis l'indépendance de la RDC en 1960, des efforts de décolonisation sont en cours. Cependant, ces démarches, loin d'être achevées, se confrontent encore à de résistances, de non-dits.
Si les débats récents se concentrent sur la restitution des objets d'art pillés durant cette période coloniale, un autre aspect tout aussi important mérite notre attention, celui du poids du langage colonial dans les relations actuelles entre les Congolais et les Belges, Babel.
Et ceci s'est illustré encore une fois dans un cas récent. Durant la période coloniale, des milliers d'enfants nés d'un père belge et d'une mère congolaise ont été arrachés à leur mère. 5 d'entre eux ont assigné l'État belge en justice. La Cour d'appel de Bruxelles vient de leur donner raison. Ces enlèvements qui relèvent d'une politique raciste constituent un crime contre l'humanité.
Des blessures anciennes, comme le cas de ces enfants métis belgo-congolais, viennent donc trouver une reconnaissance juridique plus de 60 ans après les faits. Mais ces blessures coloniales vont bien au-delà de ces faits en eux-mêmes. Elles se prolongent dans les mots, les attitudes et les imaginaires collectifs en Belgique et ici en République démocratique du Congo.
Et ici, nous allons donc voir comment ce langage hérité de l'époque coloniale continue d'influencer ou pas nos relations et notre imaginaire aujourd'hui. Pour nous accompagner dans cette réflexion, deux invités. Le premier, Albert Maloukissa, docteur en études du développement, professeur à la faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo. Il est également chercheur associé à l'Université d'Anvers en Belgique. Bonjour professeur Maloukissa.
Bonjour et mes salutations à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Merci à vous, professeur, d'avoir répondu présent à notre invitation. Notre second invité est Frédéric Kinkani. Il est professeur ordinaire, docteur en philosophie, enseignant dans plusieurs universités congolaises et européennes. Bonjour, professeur Kinkani.
Bonjour et je salue également tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci professeur. Avant de plonger au cœur de cette discussion qui s'annonce passionnante, écoutons un premier extrait de notre feuilleton radiophonique. Ce sketch nous plonge au cœur d'un campus universitaire où un étudiant affiche une attitude condescendante et tient de propos dégradants et carrément racistes vis-à-vis de ses camarades. On écoute.
Je ne peux pas continuer. Non, mais les gens, ils savent où là pour travailler.
Non,
Mais on risque de tous tomber malades sous cette pluie, vraiment.
C'est pas vrai. Êtes-vous des boules de sel qui vont fondre sous la pluie ou quoi? Allez, au travail. Allez, au travail.
S'il te plaît, chef, s'il vous plaît. Laissez-nous abriter un peu. On peut continuer le travail même demain, quand il n'y aura plus de pluie.
Oui, on peut revenir demain. Je ne serai pas là demain.
Seigneur.
Et je ne peux pas vous laisser travailler seul, vous, une bande de fainéants primitifs. des indigènes sans aucune capacité de travailler de façon autonome et responsable.
En tout cas, chef, bien dit, je loue ta prudence. Je ne suis pas sûr que cette race des étudiants originaires du village de Kitoko et Amani soit capable de faire correctement quoi que ce soit tout seul. Hein? Ils risquent de tout foutre en l'air.
D'ailleurs, qu'ils sachent qu'ils n'ont ni l'intelligence, ni les statuts de pouvoir négocier quoi que ce soit avec moi. Hé, écoutez, mon voyage, soit vous continuez à bosser sous la pluie, soit je prends des mesures qui s'imposent.
Espèce de fainéant de race inférieure, en quoi une si petite pluie peut vous empêcher de travailler, martèle l'un des personnages dans ce sketch. Professeur Frédéric Kinkani, comment peut-on définir le langage colonial? Peut-on dire que ce langage est à la fois raciste, stéréotypé, dénigrant et même humiliant, professeur Kinkani?
En fait, votre question répond pratiquement, donne la réponse. Comme élément, il faut savoir que le passé colonial a été simplement un passé très lourd. Hein, non seulement que c'est teinté de racisme, mais c'est surtout ce qui est plus fondamental, c'est le refus de la reconnaissance de l'identité de l'autre. Et donc, pour la plupart des cas, les colonisateurs avaient développé une idéologie et des politiques d'uniformisation. C'est-à-dire qu'en allant à la rencontre des autres peuples, les colonisateurs n'ont pas voulu tenir compte de l'identité des peuples qu'ils rencontrent. Ils devraient imposer les manières d'être et quiconque ne s'adapte pas à ces manières d'être étaient traités d'indigènes, des barbares, ainsi de suite. Et nous devons savoir que déjà dans l'histoire, en fait, lorsqu'on parle des barbares, c'est l'un des mots qui ont caractérisé, n'est-ce pas, la rencontre entre l'Afrique et l'Occident. Les barbares, c'est en fait celui qui ne parle pas la même langue que l'autre, disons, celui qui croit être civilisé. Donc déjà, la langue était un élément de discrimination, de dévalorisation de l'autre. Vous savez que les colonisateurs, pour la plupart des cas, ne reconnaissaient pas la possibilité du séjour de la raison en terre africaine. Et donc, il y en a même qui considéraient que le climat africain est tellement chaud et torride qu'il était impossible que la raison y séjourne. Et donc, vous voyez deux. Il y a cette considération, il y en avait beaucoup d'autres. Hein, si vous allez chez un penseur, un philosophe comme David Hume, il considérait carrément que Dieu ne pouvait pas mettre une bonne âme dans un corps tout noir. Et donc c'est carrément toutes ces pensées, idéologies dominantes qui ont accompagné le séjour du colonisateur en Afrique, principalement au Congo, et dès lors qu'on parle du colonisateur, il faut s'attendre que c'était des relations du dominant-dominé.
Oh, merci pour cette première intervention. Je me tourne vers vous, Albert Maloukissa. Que peut-on dire de l'héritage du langage colonial en RDC 64 ans après l'indépendance? Est-ce que les relents du langage colonial existent toujours en RDC et en Belgique? Si oui, qui l'utilise et contre qui?
Merci beaucoup, madame. J'en profite pour saluer mon collègue Frédéric Kinkani. Au fait, après la colonisation, il y a eu le néocolonialisme, il y a eu la reproduction même de ce qu'on déplorait chez les colonialistes, chez les colons. Regardez bien, parce que le premier élément qu'on vient de suivre, c'est un rapport avec l'éducation. Il faut voir au Congo comment les maîtres, l'enseignant, les professeurs se comportent par rapport à l'élève, à l'étudiant, à l'apprenant. Vous allez remarquer que cet héritage colonial s'est fait sentir jusqu'à présent. D'ailleurs, nous, à notre époque, quand on étudiait, le fouet était au rendez-vous. Hein. Les choses ont légèrement évolué, mais c'est des cas qui existent encore. Vous voyez l'enseignant tabasser, rosser l'étudiant, l'élève, même dans une salle de classe. ça continue encore aujourd'hui, hein, même si ça baissait un peu d'intensité. Regardez la perception que les militaires ont des civils. Civil Azali, Bilanga, il y a Soda. Déjà, à l'époque coloniale, on a utilisé la force publique pour mater, pour réprimer les civils. Regardez encore les relations entre employeurs et employés au Congo. On observe toujours les mêmes pratiques. La domination, les injures, la méprise, l'agression verbale, physique, ça existe toujours. Et évidemment, cet héritage lourd sur le plan colonial affecte même notre performance. Si aujourd'hui le Congo a de la peine à décoller, c'est aussi lié à toutes ces considérations. Nous, Congolais, nous comportons un nouveau collant vis-à-vis de nos propres concitoyens, malheureusement.
Merci, professeur Maloukissa, pour cette première intervention. Si vous le voulez bien, je vous invite à présent à écouter un deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec nos amis les étudiants. On va voir cette fois-ci comment ils expérimentent le danger du langage colonial. On écoute.
Vous
mettez déjà mal à l'aise comme ça.
Donc, vous décidez de ne plus bosser?
Pardon.
Écoutez-moi très bien. Que vous les vouliez ou pas, ma race sera toujours supérieure à la vôtre.
Mais eh oui, c'est ça la vérité en fait, c'est ça. De toute façon, ils n'ont d'autre choix que d'accepter de se soumettre et de profiter de notre intelligence.
J'espère qu'ils auront au moins la chance d'être aussi civilisés un jour.
Mais est-ce que mon éditeur fassiez tout vraiment, hein? Au lieu de nous traiter comme si nous étions des êtres inférieurs.
Vraiment, Atayomoko.
J'ai connu à qui j'ai affaire. Quand on sait qu'on traite avec des indigènes qui s'habituent à la saleté et aux mauvaises odeurs, sans la matraque derrière, ils vont rester en train de patauger dans les ordures comme des pauvres cochons.
Non, oui, pas jusque là, je dis. Il faut que tu retires vite ces paroles.
Je ne retire rien.
Tu vas retirer ça. Mais parce que personne n'a le droit de continuer à nous maltraiter comme si nous étions à moitié humains.
Non, Kitoko. Tu oses hausser les dents? Mais c'est étrange ça.
C'est quoi ça?
Tu sais dire que vous êtes en moitié humain, c'est encore vous faire des fausses éloges.
Non.
Trop c'est trop. En tout cas, trop c'est trop ici.
Hein? Trop c'est trop.
Nous en avons marre de ce langage. Nous devons agir au plus vite.
Oui.
On doit agir.
Oui, un bout, vous allez nous sentir.
Nous en avons marre de ce langage, nous devons agir, déclare sur un ton menaçant l'un des étudiants excédé par les propos dénigrants proférés par l'un de ses camarades. Professeur Maloukissa, le processus de décolonisation commence officiellement en 1960, mais aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qui a vraiment changé au niveau linguistique? Y a-t-il toujours un double langage, entre guillemets? Y a-t-il toujours un héritage de ce langage colonial dans la vie quotidienne des Congolais en ce moment? Si oui, avec quelles conséquences potentielles?
Voilà, à l'époque coloniale, on a distingué d'un côté les primitifs des populations non civilisées, des populations africaines congolaises, et de l'autre côté, les blancs qu'il fallait imiter, et puis vous avez les évolués. Des évolués, des Congolais, des Africains qui s'approchent des Blancs, qui adoptent la culture des Blancs, des colons, qui se distinguent, qui se démarquent de leurs autres collègues, frères, sœurs, d'autres Africains, d'autres Congolais, d'autres Congolaises. Alors, qu'est-ce qui a évolué depuis 60? D'abord, il y a certaines considérations, quand même, on doit reconnaître, qui ont marqué une certaine
évolution.
Par exemple, je vous renvoie dans les contextes académiques, justement, sous l'effet de la lutte contre les violations des droits de l'homme, bon, il y a quand même une certaine évolution dans les rapports entre enseignants, entre étudiants. Mais on voit ça plus dans les milieux urbains. Dans les milieux ruraux, ça persiste énormément, cette discrimination. Je vous donne un exemple. Je suis dans une université à l'intérieur du pays. Une étudiante prend la parole pour répondre. Elle avait répondu des manières remarquables à la question que j'avais posée. Et l'autre monsieur, le garçon, s'est senti humilié en disant « Vous ne pouvez pas répondre à ma place ». Vous avez également des choses pareilles, des situations pareilles entre étudiants. Il y en a qui se considèrent comme étant supérieurs aux autres. Voilà, c'est des choses qui persistent, mais encore dans notre vécu quotidien. Nous avons une agressivité verbale assez prononcée. Je pense qu'il y a beaucoup à faire jusqu'à présent. Les rapports que nous avons entre humains, c'est marqué de beaucoup d'inégalités. Et ça se mesure déjà à partir du langage. Voilà.
Et justement, quelle est la conséquence de ce langage agressif que vous estimez être un relent de ce langage colonial aujourd'hui?
La première conséquence, c'est la démotivation. Surtout quand vous êtes dans un milieu professionnel, c'est la démotivation. Même dans les milieux académiques, vous pouvez facilement frustrer un étudiant et l'étudiant peut facilement abandonner ses études, l'étudiant peut parfois adopter un autre comportement agressif pour faire face à vous. La conséquence, c'est aussi en termes d'action collective. Toute organisation, pour évoluer, il faudra que les gens trouvent des intérêts communs et qu'ils marchent ensemble suivant ces intérêts. Mais à partir du moment où il y a certains citoyens, il y a des catégories de personnes, en commençant même au sommet de l'État, qui se croit supérieur aux autres. En ce moment-là, les rapports sont inégaux et c'est difficile d'amener tout le monde vers un objectif commun. Généralement, vous allez observer qu'il y a trop de conflits qui font qu'on n'évolue pas. Même dans les micro-organisations que nous avons, c'est généralement par les discours agressifs. Là, c'est qu'on dit comme s'il est le maître, il doit dicter sa ligne de conduite aux autres sans les écouter, même dans les partis politiques, c'est ce qu'on vit généralement. Et à ce moment-là, c'est difficile de voler. C'est-à-dire, on retombe dans l'exploitation de l'homme par l'homme. Les uns s'enrichissent en profitant des efforts fournis par les autres. Par les discours, on anéantit vraiment ces possibilités qui peuvent exister pour qu'on puisse collaborer de manière harmonieuse et de faire en sorte que, par exemple, le projet d'intérêt général aille dans la bonne direction.
Merci, professeur Maloukissa. Vous avez cité notamment la démotivation, un comportement agressif en retour comme conséquence potentielle du langage colonial dégradant. Donc, nous tournons vers vous à présent, professeur Kinkani. Quels effets, quelles conséquences psychologiques lorsqu'un langage péjoratif avec des relents colonialistes a été utilisé ou continue d'être utilisé contre un individu ou une communauté? Est-ce que vous pensez la même chose que professeur Maloukissa?
Oui, effectivement, je devrais appuyer un des arguments évoqués par mon collègue tout à l'heure. Une sorte d'héritage, pendant que nous sommes nous-mêmes en train de dénoncer le langage et les pratiques coloniales, nous sommes parfois aussi en plein dedans parfois de petites choses. Je vais peut-être vous faire rire. Vous voyez, nous avons connu dans notre pays successivement trois régimes politiques. Mobutu, Kassavubu, Mobutu, le Dikadila. Aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi. Vous verrez que dans la plupart des cas, ceux qui sont au pouvoir ou la région dont le président est originaire, dans la plupart des cas, se considèrent comme supérieurs à toutes les autres communautés. Et donc, c'est parfois de manière indirecte ou insidieuse, ça reflète un passé, l'héritage d'un passé colonial. Pendant qu'on veut s'en libérer, on est finalement, on en est réellement des acteurs. Et donc, les conséquences de ces de tous ces langages, c'est non seulement le professeur Maloukissa a parlé de perte de confiance en soi,
mais aussi il y a le sentiment de révolte. Mmh. Hein, vous voyez, aujourd'hui, l'un des éléments qui divise, qui ne favorise pas la cohésion, l'unité nationale, c'est l'ajustement du pouvoir. Donc, être au pouvoir, c'est synonyme de supériorité. Mmh. Disons un certain pas un peu plus que l'autre signifie que l'autre doit être écrasé. Et donc au-delà de manque de confiance que cela crée, il y a le sentiment de révolte. Finalement, le sentiment de révolte finit par créer des guerres entre communautés. Et pour revenir à ce que nous avons dit du passé colonial, c'est effectivement le même système que nous sommes en train de perpétrer en République démocratique du Congo. Le tribalisme que nous vivons, ce langage qui voit en l'autre un danger, c'est pratiquement la même chose qu'on vit, même si ce n'est pas ressenti de la même manière en Belgique entre les deux communautés wallonne et flamande. Et lorsque dans une communauté il y a un groupe qui croit qu'il règne sur les autres, et bien pendant ce temps-là, attendez-vous à ce que la production ou le rendement ne soit pas celui qu'on aurait bien voulu atteindre.
Merci encore une fois, professeur, pour cette analyse qui nous permet d'entamer la troisième partie de cette émission. Mais avant, je vous invite à écouter le dernier extrait de notre sketch radiophonique, toujours avec les étudiants. On va voir les leçons qu'ils tirent ensemble de l'usage d'un langage péjoratif qui rappelle avec douleur le type de propos qu'on entendait pendant la période coloniale. On écoute.
Montrez-vous tout de suite, montrez-vous, montrez-vous. Mais sortez donc de votre cachette, Bobima.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne lui faites pas du mal, s'il vous plaît.
C'est quoi ça?
S'il vous plaît.
Si vous croyez que c'est vous qui avez la force et le pouvoir sur tout là, alors venez donc pour qu'on en finisse une fois pour toutes.
Mais ouais. Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous vous mettez tous en colère contre nous? Alors que je ne faisais que m'assurer que le travail de mon patron sera fait correctement.
N'importe quoi.
Tout responsable est censé faire ça, non?
Mboui, oui. Ton problème, c'est le langage paternaliste et raciste que toi et Mbuta avez utilisé. Qui peut supporter ça? Hein? Qui? N'a rien qu'on supporter. Non, mais nous sommes à bout.
Non, mais
sommes à bout.
Imaginez-vous que vous subissez le même langage infantilisant et dégradant. Comme si vous étiez des êtres inférieurs.
Vraiment.
Vous t'as dit ce qu'il y a.
Rappelez-vous que nous vivons tous au 21e siècle.
Oui, c'est ça.
Ouais. Nous vivons tous au 21e siècle. Donc, Mtabangisamninga Azate. Ce langage est officiellement interdit, même punissable.
J'avoue que depuis que je suis tout petit, dans ma famille, on me disait que notre race est supérieure aux autres. Et que nous sommes faits pour dominer les autres races qui sont moins civilisées.
Il y a un monde de quand on parle bisous.
Vraiment, Mbouy a raison. Ce langage de supériorité ou d'infériorité est transmis de génération en génération. J'avoue que je ne me rendais même pas compte de la gravité du langage.
Mais ça, c'est pas bien.
Mais faites attention à ce que vous dites aux gens. On ne peut pas prétendre amener les autres à s'améliorer en les dénigrant quand même. Hein?
Non, mais en tout cas, on fagne les cases ni peke. Je suis tout naenda.
Je ne me rendais même pas compte de la gravité de ce langage, reconnaît l'un des personnages qui plutôt tenait des propos dégradants vis-à-vis de ses camarades. Professeur Kinkani, comment peut-on faire pour faire évoluer un langage historiquement raciste et paternaliste, marqué par des termes tels que « indigène » entre guillemets ou « nègre » entre guillemets, vers un langage plus inclusif et plus respectueux?
Bon, vous voyez, quand on dit nègre, c'est vrai que c'est un concept qui est suffisamment chargé à cause de l'usage. Mais être noir, malheureusement, être noir n'est pas un problème. Ce qui est plus important, c'est que il doit y avoir un effort de valorisation et de révalorisation identitaire. Il est important que les Congolais, l'Africain, affirme sans complexe de son identité, parce qu'en fait, c'est dans la rencontre des cultures que nous nous connaissons beaucoup plus facilement, dans le sens que nous découvrons les richesses qu'il y a chez l'autre, et ainsi de suite. Donc, à mon sens, le langage paternaliste, n'est rien d'autre que cette psychologie de supériorité, mmh, où on croit que appartenir à une telle race est synonyme de supériorité. Et évidemment, c'est l'homme blanc a utilisé beaucoup d'éléments pour prouver qu'il est supérieur au noir, qu'il appelait carrément nègre, mmh, au regard de la civilisation, ainsi de suite. Et donc, il est important pour nous de pouvoir valoriser ce que nous avons de façon endogène, mm-hmm, sans nécessairement que ce soit comme les autres. Nous participons à notre disparition identitaire par notre incapacité à maintenir nos traditions et à pouvoir les valoriser.
Merci, professeur Kinkani. Je me tourne vers vous, hein, professeur Maloukissa. Et comment la société congolaise peut-elle se reconstruire de manière plus égalitaire et inclusive, tout en dépassant le passé colonial, sans pour autant reproduire les mêmes schémas de catégorisation qui considèrent certains groupes comme inférieurs?
Oui, je vais essayer d'approfondir la réflexion de mon collègue Kinkani. La responsabilité essentielle revient à l'État congolais. Il faut repenser d'abord l'éducation nationale. On, mmh, ne forme que comme on a été formé, mmh, on éduque que comme on a été soi-même éduqué. Quand vous observez les relations entre étudiants, étudiantes, les relations entre étudiants et professeurs, enseignants, c'est vraiment quelque chose qui démontre déjà que ça ne va pas. Et puis, il y a un sérieux problème qu'on doit résoudre déjà en repensant notre gouvernance aussi. Mmh. Si nos dirigeants sont défaillants, nous devons miser sur la société civile pour pousser que les choses aillent plus loin, pour que, mmh, les choses marchent mieux. Mais vous voyez, nous tous, nous sommes les produits de la société. Hein. Si à tous les niveaux, si au niveau de tous les acteurs, on n'a pas bénéficié d'une éducation qui vous prépare à penser d'abord à l'intérêt général, à l'intérêt des Congolais, mmh, je pense qu'on pourrait tout faire. Rien ne marchera. Nous tous, nous avons été élevés. Nous ne portons que des tares de l'éducation qu'on a reçue en famille. C'est au niveau des écoles qu'on pouvait remarquer le mauvais comportement de certains élèves, de certains étudiants, voire convoquer les parents pour savoir comment ça se passe en famille. Voilà. Merci. C'est là où j'ai dit que la responsabilité, mmh, majeure revient à l'État. On changera la vision de rapport entre celui qui domine, entre le supérieur et l'inférieur, que si on a un État responsable.
Merci, professeur Maloukissa. Voilà, cette discussion passionnante touche à sa fin. Merci à nos invités, le professeur Albert Maloukissa et le professeur Frédéric Kinkani, pour leurs analyses et leurs contributions à ce débat, Babel.
Ce que nous retenons aujourd'hui, Pauli, c'est que le langage n'est pas qu'un simple outil de communication. Il est porteur d'une histoire, d'un héritage parfois lourd, mais aussi d'un potentiel immense pour construire une société plus juste, inclusive et réconciliée.
Décoloniser le langage, Babel, c'est aussi décoloniser les mentalités. Cela passe par une prise de conscience collective de Bruxelles à Kinshasa, un travail sur nos imaginaires et une volonté de dépasser les blessures du passé sans forcément les oublier.
Et en République démocratique du Congo comme ailleurs, le défi est de transformer ce langage autrefois utilisé pour diviser et humilier en un outil de réconciliation, de respect et d'inclusion polie.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté votre attention tout au long de cet échange. Merci également à Alain Goye qui était à la régie d'antenne. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, une émission proposée par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.
On se retrouve vendredi prochain à 8h30 minutes de Kinshasa pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous avez manqué une partie de ce magazine, pas de panique, vous pourrez le réécouter samedi à 11h05 minutes et 19h05 sur les ondes de Radio Okapi ou en podcast à tout moment sur www.radiokapi.net et www.abarirdc.net.
Et surtout, n'hésitez pas à partager vos réactions sur nos pages Facebook et X, que ce soit celle de Radio Okapi ou de Abari RDC. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Merci encore une fois pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de C'est le ton qui fait la panique. Au revoir.
C'est le ton qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capitaine.